Si l'on ne songe qu'à faire rire, rien ne sera drôle. Si l'on ne songe qu'à illustrer les scènes, rien ne sera vivant. Un aphorisme. Deux bouts de texte. On m'a dit que les gens de qualité sont habillés comme cela le matin. Quoi, quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit », c'est de la prose. Vous écoutez « Morceaux choisis tonight » et l'émission du jour aura pour thème le théâtre, Molière, Denis Podalydès. Bonjour Francis, bonjour Francis.
Bonjour Narvin. Et c'est un plaisir avec toi, bonjour Francis, de lire des extraits de En jouant, en écrivant, Molière et compagnie, le dernier livre de Denis Podalydès qui a joué beaucoup Molière, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque à 60 ans révolus aujourd'hui et depuis 2000 sociétaire de la Comédie Française qui est la maison de Molière quand même, et quand on voit tout le trajet de Podalydès, tant de théâtre joué et puis tant de films aussi, puisque tout le monde je crois aujourd'hui connaît Denis Podalydès, qui a joué beaucoup d'ailleurs dans le cinéma de son frère Bruno Podalydès. Alors Denis on le connaît. En gros, ce n'est pas la peine de le présenter, sauf que il est autant un écrivain, puisque la littérature a toujours été son affaire, d'où en jouant en écrivant, c'est-à-dire quelqu'un qui a non seulement beaucoup joué, comme on vient de le dire, mais qui a aussi beaucoup écrit sur son jeu, sur les voix, un très très beau livre sur les voix, et qui très récemment, à la suite de la fameuse année Molière, eh bien, a lui-même produit un livre sur Molière et sur l'intérêt qu'il porte à Molière. Alors évidemment, à partir de lui, à partir des scènes qu'il a lui-même monté ou qu'il a lui-même joué, mais aussi à partir des lectures sur Molière, c'est-à-dire entre autres Jacopo, donc ce renouveau du théâtre français dans les années 20 et 30, mais aussi Louis Jouvet un petit peu plus tard, et Jouvet et Copo, bon c'est le cartel, on est dans le même monde.
Jean-Pierre Vincent.
Et puis Jean-Pierre Vincent, donc Podalydès parle de ceux avec qui il a joué, quand il a joué, mais aussi de ce qu'il a lu, lui permettant encore de mieux jouer et de mieux comprendre Molière.
Ouais, bon, c'est une émission qui est pour nous, ça. Hein,
voilà, tout hein, à fait.
Ça.
Et puis, c'est une émission aussi sur Molière.
Mais c'est oui, c'est aussi sur Molière. Enfin, c'est une émission qui nous fait particulièrement plaisir.
Voilà.
Voilà, bon, bah, on va y aller tout de suite. Hein. Allez, envoyez, Francis, tu peux y aller avec Bonnet Fields.
Thank you.
C'était Bonnie Fields, un chanteur et surtout un trompettiste. Profaner les classiques. Le 400e anniversaire de la mort de Molière a donné lieu à quantité de publications, de représentations, de manifestations diverses pendant un an. J'ai rédigé des préfaces et des notes personnelles, participé à des entretiens, joué orgon dans Tartuffe et repris deux mises en scène des Fourberies de Scapin et du Bourgeois Gentilhomme. J'appartiens à la Comédie-Française dont Molière est le saint patron, l'emblème et l'apanage. Ma fréquentation de l'œuvre s'est à peine intensifiée cette année-là en regard des années précédentes, mais la publicité générale que produit une commémoration m'a fait réfléchir, a suscité des questions dont ce livre est le résultat, la collection, le prolongement. Il est fait aussi et surtout du goût, de l'appétit, du besoin presque buccal que j'ai de Molière. À peu près de la même façon que pour tous les classiques du théâtre français, mais probablement d'une manière particulière avec lui, Souverain est mon plaisir de dire la langue. On reproche ce plaisir aux acteurs, ils le feraient trop entendre, au détriment du personnage et de la situation. On dit qu'ils chantent, qu'ils s'écoutent parler, qu'ils perdent le naturel. C'est vrai, et Marivaux demandait que les acteurs ne disent jamais leur texte, en sentant la valeur de ce qu'ils disent. C'est aussi juste pour Molière. L'adéquation est parfaite entre le dit et le pensé, entre ce qui s'exprime et la manière dont le personnage l'articule. La réplique, le dialogue, sont une matière organique presque tangible. Une substance immatérielle s'établit dans l'air au sortir de la bouche et demeure entre l'acteur et le spectateur comme la chose même du théâtre. Je vais bravement au-devant de ce reproche que l'on fait souvent à la pratique des acteurs français de trop accorder au langage, à la diction, de jouer les mots, de réifier la langue et de l'empâter, alors qu'elle doit être fluide et se dissoudre, n'être qu'un élément de la signification. Oui, rien n'est pire que le jeu rhétorique. C'est affaire de nuances. Les souvenirs de grande interprétation sont liés autant à la vérité du jeu qu'à la beauté d'un phrasé, l'impression qu'une voix laisse au contact d'un grand texte. J'aime les répliques de Molière comme j'aime certains poèmes, instinctivement, immédiatement, musicalement. Je ne dis jamais les mots sans éprouver ce sentiment de pleine exactitude quand la langue épouse la chose qu'elle dit en chacune de ses particules. Jouissance de la poésie. Goûter ce plaisir au cœur de la comédie, au beau milieu de la pièce. Connaître le suspense raffiné, aérien, spirituel qu'il offre, de même qu'un danseur quitte une demi-seconde la gravité terrestre lorsqu'il effectue un saut, est, à mon sens, un des plus grands bonheurs que puisse offrir l'interprétation d'un rôle de Molière. Que ce soit dans ma loge ou chez moi, j'ai toujours à portée de main les deux volumes de ses œuvres complètes dans la Pléiade, ancienne édition dans ma loge, nouvelle édition chez moi, et je m'y reporte assez souvent, notamment à la fin de l'année, en décembre, en vue de l'hommage à Molière. Cette petite cérémonie a lieu tous les 15 janvier, réunie et costumée à l'issue de la représentation du soir. La troupe de la Comédie Française, presque au complet généralement, salue le public, un à un et tous ensemble, simul et singulis, et quand son tour vient, chacun, chacune, y va de sa petite phrase tirée du corpus. Chaque année, cherchant les quelques mots à dire, je relis pièces, scènes, répliques de ci, de là, et fabrique une anthologie éphémère et désordonnée. Je ne note rien, n'ayant aucun désir de la constituer, puisqu'elle ne vaut que le temps de la rêver. Émerveillé en me déplaçant, dans ses œuvres, ses pièces, ses tirades, je vérifie l'attachement compulsif et enfantin qui est le mien, comme si je retrouvais dans cet exercice le sens de ma vocation, les mots à même de réveiller ma faim de théâtre. Je ne me pose pas en spécialiste. Je sais que ma connaissance de l'œuvre de Molière est inférieure à celle des érudits et des plus fervents des passionnés. Entré en 1997 à la Comédie Française, reçu sociétaire de cette maison dite de Molière en 2000, je suis prédisposé à défendre celui-ci comme un acquis, une propriété, une valeur de mon camp. D'autant que les années théâtrales qui ont compté dans la formation de mes goûts ont placé Molière tout en haut, parmi les auteurs les plus exigeants, les plus difficiles. Comment rendre compte autant du comique que du tragique ? Comment tenir cette intrication perpétuelle ? Comment jouer ensemble la subversion sociale et la poésie du discours, la dimension métaphysique et la farce ? Politiquement, on le situait d'instinct à gauche, un homme de théâtre dépendant certes du roi et de la cour, mais résistant au pouvoir en tant qu'homme libre, ou autant qu'un auteur dramatique pouvait l'être à cette époque. Hostile au clergé, en but au puissant, allant jusqu'à préfigurer, préparer même, l'homme des Lumières. La diversité et l'importance dans l'œuvre des personnages éclairés pouvant en effet donner l'illusion rétrospective qu'ils en sont les précurseurs. Je sais qu'il est aberrant de projeter des catégories historiques et politiques contemporaines, être de gauche sur une époque monarchique qui ignorait un tel clivage, mais les acteurs, actrices et metteurs en scène qui importaient à mes yeux considéraient Molière ainsi, plus ou moins, et le plaçaient très haut dans leur répertoire engagé. D'autre part, je ne pense pas qu'une prédisposition sociale et professionnelle à aimer Molière, dès lors qu'elle est consciente et assumée, puisse jeter une ombre sur ce goût et encore moins sur l'objet de ce goût. C'est plutôt une chance dont j'ai profité. L'amour de Molière peut facilement se combiner avec l'idéal démocratique qui reste le mien, même si je ne parle jamais en ces termes, avec l'espèce de conservatisme dont je me suspecte et voudrais me défaire, aussi bien qu'avec le désir de nouveauté, de création, de changement que n'importe quel artiste digne de ce nom doit promouvoir.
Toujours quelques remarques concernant la lecture de Molière de la part de Podalydès. Nu devant l'humanité nue. Le temps passant, les époques se succédant, spectacles et mises en scène des mêmes pièces se recouvrant les uns les autres, Molière devient presque mathématique, une figure abstraite. Dans quel cadre, quel décor, quelle dramaturgie situer ces personnages dont notre mémoire est encombrée ? Combien d'acteurs et d'actrices défilent dans nos têtes à la mention de tel ou tel rôle, au point qu'ils en deviennent désincarnés ? Quel sens aujourd'hui ? Qui peut encore croire à la vilénie d'Harpagon, à la mélancolie d'Alceste, à la folie d'Arnolphe, à l'hypocondrie d'Argan, à la subversion de Scapin, à la souffrance des Octaves, Léandre, Marianne, Cléante, tous enfants martyrs des protagonistes des pièces de Molière ? Qui peut donner à tout ce petit monde l'épaisseur d'un vrai monde, qui peut encore y voir un lointain reflet de notre humaine et contemporaine condition, c'est-à-dire se laisser surprendre et toucher par la vérité, la sensibilité, voire la modernité de ses caractères. Que peut-on y entendre d'autre que le théâtre, des personnages de ou du théâtre, des mythes scolaires, d'élégantes illusions de la culture officielle? Et pourtant, rien n'empêche d'y croire, rien n'empêche d'y trouver du sens. On dirait même que le public, encore aujourd'hui, public certes instruit, appartenant toujours majoritairement à une couche relativement aisée de la population, malgré la démocratisation de la culture entreprise depuis de longues années, ne cesse de s'y retrouver, d'y prendre plaisir, de vouloir assister aux interprétations de ces pièces. Ce public-là n'est-il mu que par des déterminismes culturels de classe, une tradition scolaire conduit et reconduit par divers entonnoirs ou sempiternels classiques. On observe bien que Tartuffe, le misanthrope ou l'école des femmes, trouvent sans peine le référent dans le monde actuel. Le fanatisme religieux, la haine de la société, la misogynie, ça parle encore. C'est même toujours brûlant. Mais les pièces ne nous disent-elles pas exactement ce que nous voulons entendre, ce que nous savons déjà, ce que nous savons qu'il est bon de dire et de penser? Certes, sous de vivantes couleurs et enveloppé dans un habile scénario, à la fois divertissant et touchant. Je ne crois pas qu'aucune pièce de Molière ait éclairé, modifié le cours du monde. Je ne crois pas que cela soit chez elles un défaut, un manque, car je ne crois pas que là soit leur mérite, leur pertinence, leur puissance subversive même, que je leur accorde non moins évidemment. Qu'elles aient pu, très indirectement, dans le chemin sinueux qu'elles ont pu opérer en certaines consciences, contribuer à une modification du monde, un éclairage philosophique, je le crois en revanche volontiers. Au fond, elles nous mettent à nu devant l'humanité nue. Je n'ai aucune envie de chercher à prouver l'actualité de l'œuvre, à entendre les résonances que telle ou telle pièce, grande ou petite, canonique ou marginale, rencontre avec notre époque. Quand on veut le montrer, on en trouve toujours. Chaque metteur en scène de Molière s'entend poser la question, soit pour le dossier de presse du spectacle, soit pour les journalistes, s'il vient à être interviewé pour la promotion du dit spectacle. Je n'ai de réponse à cette question que l'art des acteurs, tel que le suscite et l'appelle la langue, les situations et les caractères de Molière. Je crois avoir compris que la seule raison de jouer encore ces pièces tient au plaisir de l'incarnation et du spectacle de cette incarnation. Ce n'est pas la description d'un monde à laquelle nous nous abandonnons, mais la mise en route d'une machine passionnelle, pulsionnelle, et nous réclamons d'y assister comme à une course, à un match, à un déploiement de force, qui n'est rien moins que le spectacle de l'humain, celui que procurent des acteurs en pleine possession de leurs moyens décuplés par l'énergie d'une œuvre. Je ne crois sans doute pas à la naïveté de M. Jourdain, à la subversion de Scapin, à la sottise d'Argante ou la méchanceté de Géronte, mais je crois profondément à la naïveté de Pascal Renéric en Jourdain, à la drôlerie subversive de Benjamin Laverne en Scapin, à la représentation implacable de toute la stupidité et de la méchanceté du monde par Gilles David ou Nicolas Lormeau en Argante, en Didier Sandre, en Géronte. Acteur, entre autres, avec qui j'ai partagé et agité toutes ces questions. Je pourrais en citer bien d'autres et chacun peut en faire sa liste. C'est dire, si le comédien s'expose dans les pièces de Molière, il s'y livre tout entier, rien de lui n'échappera à la scène. Son humanité sera entièrement déboilée. Sa viande, son cœur, les linéaments de son cerveau, sa fragilité, sa faiblesse, sa bêtise, sa mortalité. C'est la modernité de Molière, la faculté, en le révélant, de dénuder l'acteur.
Un petit complément. Sur un certain palier de la progression comique, le spectateur voit où on le mène. Il comprend qu'il a compris. C'est un immense plaisir. Il fait signe à l'acteur qu'il a compris. C'est une jubilation, une trépidation. Car cette intelligence du spectateur n'est pas bloquée dans le cerveau. Elle passe dans ses nerfs. Elle occupe tout son corps. À partir de ce moment, la connivence s'établit entre celui qui parle et joue et celui qui regarde et écoute. Le spectateur suit l'acteur, il accepte les retards et les fausses chutes, les incidences et les silences. Il épouse les feintes, hésitations et les détours calculés. Il lit sur le visage de l'acteur et dans son attitude ce que la parole va trahir l'instant d'après. Tous deux s'avancent à travers les espaces comiques avec une sécurité mutuelle, une reconnaissance réciproque. Ce que le comédien dépense, son partenaire, le spectateur, le lui restitue instantanément. Je crois voir Christian Heck, dont Jacques Copeau semble détailler le génie comique. Voilà, c'était un petit ajout au texte sur l'humanité à nu. C'était Binky Griptit et Victor Axelrod. Il ne faut point dire bagatelle. Il n'y a pas que des répliques de sens, de caractère ou de répartie, mais il en est de pur mouvement ou de grimace. Le style de l'interprétation en tire sa principale couleur. De même, nombreuses répliques d'atmosphère. Jacques Copeau. Dans Les Fourberies, Scapin veut faire avaler à Argante le mariage de son fils Octave avec Hyacinthe, que ce père récuse et entend faire annuler. Qu'on me pardonne la citation un peu longue. Scapin. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Argante. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Scapin. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le forcera pas, vous dis-je. Il le fera ou je le déshériterai. Vous ? Moi ? Bon. Comment bon ? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point ? Non. Non ? Non. Oh ! Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera ? Vous-même. Moi ? Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là, je l'aurai, vous vous moquez, je ne me moque point, la tendresse paternelle fera son office, elle ne fera rien, oui, oui, je vous dis que cela sera, bagatelle, il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. puissance rythmique de cet échange, on peut le travailler de mille manières, on doit, dirais-je, le travailler de mille manières pour en éprouver la substance, la résistance, le travailler bien sûr, comme une situation psychologique des plus tendues, mais aussi comme une gamme, un exercice physique, une partie de tennis, un duel, un instant contrapontique de longueur ou de vitesse variable, une situation à travers laquelle un personnage inverse le rapport d'autorité en substituant son incertitude fondamentale. Scapin ne sait jamais ce qu'il va advenir, il se lance, fourberie et ruse n'existant qu'en mouvement, à la certitude de l'autre. Et l'autre, le père, détenteur du pouvoir, du savoir et de la décision, vacille. L'annulation du mariage désiré, décidé par Argante, est sans doute probable. C'est un coup dur pour Scapin et Octave, qui anéantirait leur dessein commun, sauver l'amour et soutirer de l'argent. Scapin connaît l'art de l'instant acquis tout double. Vous ne le ferez pas. Niant l'évidence, il ignore ce qu'il dira dans la seconde qui suit. Il nie, c'est tout. Vous ne le déshériterez point. Pourquoi? Comment? Aucune idée. Si, une seule. Vous êtes bon. Ce sera l'argument. Contre Argante qui s'y refuse et s'emporte, il décrète la nature bonne de ce père égoïste et avare. De sa position de valet, Scapin dit ce que son bon caractère lui dictera. Comme piloté de l'extérieur, malgré ses efforts pour imposer son autorité, son jugement et la nature qu'il entend être la sienne, Argante, au fil du dialogue, est dépossédé de tout, autorité, jugement, nature. « Vous ne le déshériterez point », lui oppose donc Scapin en dépit de la fureur et de la stupeur du père. « Qui m'en empêchera ? Vous-même. Moi ? Grande trouvaille. Comme un maître d'armes martiales, Scapin retourne l'énergie adverse contre elle-même, donne au serpent à manger sa propre queue. De réplique en réplique, Argante plonge dans le non-sens. La cervelle lui est arrachée du crâne. Il est retourné, évidé, nié dans un mouvement ininterrompu et croissant. Certitude et raison se dérobent. La réalité se dissout. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Argante n'a plus la moindre prise et, pour sauver un reste d'autorité, s'attache au mot bagatelle, comme à une planche de salut dans la tempête qui l'emporte. Mercure, dans Amphitryon, annule de la même façon Sosie. La beauté, la pureté et la grandeur de la ligne musicale tiennent à ces répliques dites de pur mouvement ou grimace, comme l'écrit Coppo, offertes à l'inconscient des acteurs et des spectateurs, improvisées dans l'instant comme un standard de jazz, parsemées de réparties et contreparties qui échauffent la bile d'Argante, la malice de Scapin, la complicité des deux acteurs dont, par l'espèce de béatitude qui nous submerge au spectacle verbal, plus que tout, c'est à quoi je suis sensible, nous éprouvons la montée en température qui culmine avec ce prodigieux bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle, où Argante, n'y tenant plus, le mouvement s'achève. Molière en est si fier qu'il reprend mot pour mot ce passage dans Le Malade Imaginaire. Je le comprends, grand plaisir des échanges de ce genre dans la pratique du théâtre, jeu de la stichomythie. Tel est son nom savant, du va-et-vient rapide, fulgurant, d'une réplique à l'autre, d'une bouche à l'autre, du tac au tac. La stichomythie réunit les deux acteurs par le rythme, les fait dépendre l'un de l'autre. Ils sont portés, agis. Vous n'aurez pas ce cœur-là, je l'aurai. Vous vous moquez, je ne me moque point. Ils respirent ensemble. S'il y a un manque à cette respiration commune, cela ne va pas. La mésentente croît, le rythme s'altère, se durcit ou s'amollit. La situation s'effrite et se perd. La durée s'allonge ou s'accélère sans nécessité. La plupart du temps, les élèves s'abandonnaient à la vitesse, à un mitraillage formel et mutuel de phrases vidées de leur sens. Au premier jour du cours d'interprétation au conservatoire, chacun devait se présenter par une scène. Deux de mes nouveaux camarades se lancèrent en pure perte et virtuosité dans un morceau de Goldoni. Malgré leur plaisir et leur facilité, ils glacèrent l'assistance. Nous, leurs futurs condisciples. Quand les acteurs se parlent et s'écoutent, leurs pensées à la fois communes et séparées, liant le dialogue au lieu de le découper, on perçoit le souffle commun, les corps accordés. On n'oppose ni ne dissocie plus les interprètes. Ça joue, comme on dit. Ce n'est plus l'affaire de volonté ni de situation psychologique. On touche à la vraie situation. Le présent de l'histoire est celui de la représentation. Le présent réel et le présent fictif dans la même épaisseur. La vie de la même étoffe que les rêves. Une durée temporelle, respirée, vécue et partagée physiquement, dans laquelle le spectateur entre lui-même en jeu. C'est le plaisir, l'illusion, le théâtre. L'immédiat comme point d'aboutissement, dit Louis Jouvet dans Le Comédien désincarné. Wando Colosoy, Pepe Calé.
Toujours des souvenirs de jeu cette fois-ci. Précieuse d'école. En troisième année au conservatoire dont j'étais sorti moi-même l'année précédente, la classe de Jean-Pierre Vincent donnait les précieuses ridicules. Isabelle Candelier et Géraldine Bourgue étaient Catos et Magdelon. Dès l'amorce de ce qui n'était qu'un atelier, ça jouait. On emploie l'expression quand on ne songe plus aux performances individuelles et quand l'harmonie du jeu permet à la pièce de se manifester comme une entité vivante, autonome et agissant en toutes ses parties. Je ne sais plus très bien comment ça jouait, mais l'impression immédiate, j'en conserve le souvenir indélébile, était que ça jouait. Était-ce une illusion, une exagération de mon affect? Je ne sais. C'était en 1989. J'admirais tant Jean-Pierre que je voyais son intelligence à l'œuvre aussitôt qu'un personnage entrait en scène. La mise en scène était simple, comme en tout atelier, mais agencée, éclairée, menée avec élégance et fermeté. On aimait ces précieuses, leur langage comique, leur enfantine illusion, leur goût du beau. On rêvait avec elles et on ne leur voulait aucun mal, au contraire, c'est elles qui avaient raison. Féminisme de Molière. Il y entrait pour moi de l'amour, car Géraldine était alors ma compagne, et je croyais la voir danser. L'émerveillement m'avait saisi dans mon fauteuil. Gorgibus, le père, était masqué dans le style de la Commedia dell'arte et joué par Frédéric Constant, impeccable, selon la formation de Mario Gonzalez, précise et foudroyante. Enfin, paraissait Mascari, attendu comme les Tartuffes, puisqu'on n'a parlé que de lui. Dominique Parent, corps généreux, voix chaude, bouillée, sourire d'une naïveté médiévale avec son manteau en galoche, lui, que Novarina allait bientôt accueillir parmi ses acteurs favoris, éclate, ébloui dès son entrée, l'entrée d'un roi de comédie, dont nous savons qu'elle est signe d'une joie festive à enflammer la salle de bas en haut. Ce n'est pas un seigneur, non, il est grossier, malhabile, populaire. L'un de nous en plus large, en plus vrai. Je ne sais pas comment ils ont fait tous ensemble pour offrir ce plein de vie, cette drôlerie continue, cette bonté de l'âme. Dominique a le regard clair et gourmand. Il parle haut, ténor puissant, roule dans les mots qui ne lui font jamais peur. Sensuel, il s'active auprès des précieuses, montre sa blessure en haut de la cuisse. Et voilà Jodelé, Nicolas Bonvoisin, presque aviné. Je me souviens d'avoir ri tout au long de la scène magistrale où les quatre jeunes gens rivalisent d'esprit bancal et de formules alambiquées. Je n'avais pas ri autant devant Robert Manuel en chaise à porteur. Géraldine, Isabelle, Dominique et Nicolas ne sont pas seulement les camarades de conservateurs que je viens voir. Le cœur en joie, ils sont notre jeunesse. Ils lui donnent tout l'éclat possible, la démesure, les mots pour le dire. Jean-Pierre a vu dans la pièce un manifeste, une école, ou plutôt la fin de leur école et leur entrée dans la vie d'acteur. À la fin des Précieuses, Mascari et Jodelé sont confondus et démasqués par leur vrai maître qui les déshabille devant leur dupe. Debout, ils tiennent leurs vêtements d'emprunt en chiffon devant leur sexe sous les yeux de tous. Leur maître triomphant et mauvais, le père consterné. Catos et Magdelon humiliés et désespérés. On a envie de les prendre dans les bras. Un grand silence succède au rire. Les valets se retournent, on voit leur cul nu. Ils marchent vers le lointain et sortent. La vision de ces deux paires de fesses s'éloignant et achevant l'idylle précieuse devant les jeunes filles hagardes et statufiées m'offrit l'image du tragique farcesque.
Coming home this morning, sun was shining bright. Trying to rule me, you can't rule me. You can't take my money, man, and rule me too. Take my
Alors, c'était Candice Ivory avec à la guitare Charlie Hunter, à ne pas confondre avec James Hunter. Générosité de l'avare. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord, quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en peau bien garnis de marrons. Je joue Harpagon dans l'avare, acte 3, scène première, et j'en viens à cette réplique. Elle arrive, je suis au moment de la dire, je la dis. Plaisir extrême. Il faudra. J'éprouve la convergence du sens et du texte, de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. L'exacte pesée du signifié, d'un rien sec faire un tout qui gave. Sur le signifiant, quelques bons haricots bien gras, quelques pâtés en peau, et inversement, leur équilibre et leur embrassement, leur délivrance de l'un dans l'autre, bien garnis de marrons. Au cœur de la situation comique, embarqué et mis hors de moi dans le cours et la dépense de la représentation, traversé par les sentiments, les humeurs, les relations, les conflits qui font rage d'un personnage à l'autre, je suis arrêté par une explosion gustative. Quelques bons haricots bien gras, à la fois stupéfié et relancé, avec quelques pâtés en peau. Il me sort de la gueule un poème, bien garni de marrons. Un bloc de prose poétique d'une telle densité sonore et organique que le cours de l'action est suspendu, encombré par la parole trop substantielle et trop riche. Ça dure un instant, l'instant de la réplique, à peine un tout petit peu au-delà, puisque ça continue. Le train ne s'arrête pas là-dessus, on est déjà plus loin. Mais cet instant compte. À chaque représentation, il griffe de sa charnelle encoche la continuité du jeu. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère, en ravalant une syllabe, c'est un alexandrin, j'adore les débusquer dans la prose, et qui rassasient d'abord. Cette syllabe qui font déborder la phrase régulière, puis le double octosyllabe qui emplit et gave la bouche comme une oie. Quelques bons haricots bien gras, avec quelques pâtés en peau. Et enfin, les mistiches de fermeture qui vous la coupent, bien garnis de marrons. Je ne joue pas la déflagration poétique, c'est au spectateur d'en apprécier l'effet ou non. Il m'arrive, jouant Molière, d'être soudain ce premier spectateur en proférant les mots chargés de matière et de sens. Rien à voir avec un mot d'esprit ou un aphorisme. Ni l'auteur, ni l'acteur, ni le personnage ne sont au-dessus, ne jugent, n'administrent une quelconque sentence. C'est aussi simple que « le petit chat est mort » ou « pourtant, quand je me tâte et que je me rappelle, il me semble bien que je suis moi ». Dans la parole, nous faisons l'épreuve d'un nœud qui attache tous les éléments, texte, situation, relation, caractère, une synthèse resserrée en un instant de théâtre. Ça relève à la fois du rien de la vie, de l'existentiel pur, banal et de l'extase, du satori, de la révélation philosophale. Dans le même temps adviennent une compacité charnelle et une évidence lumineuse, un rire large et un émerveillement qui ferait pleurer. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en peau bien garnis de marrons. J'éprouve une torsion vive dans le ventre, sensation salutaire pour le rôle, pensais-je, de soudaine et brève constipation. Ces nœuds de son et de sens sont aussi les moments où le personnage se tient dans la splendeur de son vice, de sa naïveté et de sa bêtise. C'est pour lui un instant d'inconscience et d'aveuglement. Pour le spectateur, une fenêtre sur l'homme et sur soi-même.
O sol que bate na calçada nesta tarde não trouxe o dia que anseia meu olhar. Sorrir e namorar. Toda beleza que havia nesta rua há pouco tempo deu um vento e carregou. E muita gente se vestindo de alegria vai fingindo todo dia que a tristeza já passou.
repare o tempo enquanto eu faço um samba triste pra cantar. Te mostro a vida pra mudar o teu sorriso. Te dou meu samba com vontade de chorar. Amor, felicidade é o segredo que outro dia te contei. Só quem morre nos cabelos das morenas um dia nasce sobre as ruas que sonhei. Só que morre nos cabelos das morenas um dia nasce sobre as ruas que sonhei.
C'était Paulino de Viola, da Viola.
N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort ? Malade dès 1665, Molière tousse et fait rire de sa toux, revenant jouer après avoir frôlé la mort. La médecine est son thème obsessionnel. En trois comédies, dans une danse de plus en plus funèbre, il se laisse envoûter par la maladie, la mort et par ceux qui l'accusent d'en faire commerce, aboutissant dans la pièce ultime à ce jeu, faire le mort pour savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas, un des plus vieux fantasmes du théâtre comique. Molière, en arguant malade, obstiné à jouer, à faire rire de celui, demande « N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort ?» Cette réplique, je la redis tout au long de ma propre vie, à tort et à travers, un peu n'importe quand elle me vient souvent comme ça, mi-blague, mi-angoisse. J'ai toujours aimé contrefaire le mort. Enfant, je me plaisais à rester longtemps allongé, les yeux ouverts, après avoir reçu une balle ou une flèche de mon frère, et je faisais durer mon immobilité de cadavre dans une position étudiée. Comédien, mourir dans le corps de Platonov me berçait et me comblait pendant toute la fin de la pièce de Tchekhov. Je tâchais de ne pas cligner des yeux jusqu'à ce qu'on me les ferme. Alors j'entendais les voix finir la représentation. La rumeur des premiers applaudissements s'étouffait dans la descente du rideau. Je rouvrais les yeux et qui plongeaient vers les cintres. Moment lumineux, paisible, avant le redressement vertical pour les saluts. Dans cette réplique, j'entends la question de Molière. Les risques qu'il a courus, les puissances qu'il a affrontées, les grimaces qu'il a produites et les éclats de rire qu'il a déchaînés, je ne cesse de ramasser, de mélanger images, scènes, récits, fantômes, et tout apparaît à la fois comme jouissance et comme menace. Pratique du théâtre en ce qu'elle a de plus cru, de plus archaïque et de plus subversif, d'un mort, le théâtre fait un vivant et d'un vivant il fait un mort. Plaisir régressif et farcesque de l'acteur, faire semblant d'être mort pour mieux se relever et se faire applaudir. Plaisir tragique, plaisir presque obscène, celui de faire un affront, de faire l'insolent, le bravache malgré tout. Faire rire, faire le malin. On sait bien que ça finira mal et que la réalité, comme le commandeur viendra, saisir la main de Don Juan ou notre main à nous qui l'avons narguée. Elle rattrape le comédien qui s'est trop longtemps moqué d'elle. Il y a bien quelque danger à contrefaire le mort. J'y pense toujours quand j'apprends la disparition d'un acteur ou d'une actrice. On veut faire une image émouvante du plus humain des dramaturges. On aime imaginer Molière en cocu d'Armante Béjart souffrant mille morts de sa jalousie, réinjecté dans les vers du misanthrope. On désire le savoir martyr, cœur en charpie, Christ recrucifié. Je sais seulement que la phrase « N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort ?» regarde la mort en face. Elle la joue, la dit, comme il dit, joue et elle regarde le théâtre.
Hey, if that's your idea of loving, baby, save your kisses and give them to another man. But he can scratch your edge and baby, he can hold your head. But now you fooled me for a little while, but I've caught on to your style. If that's your idea of loving, baby, move it along.
Les femmes. Les rôles de femmes dans Molière sont les plus difficiles, parfois les plus ingrats. Ils réclament des actrices supérieurement douées. Elles doivent éviter la convention éculée, bipartite, des soubrettes et des jeunes premières, à quoi s'ajoutent les vieilles, Madame Pernelle ou les folles, Bélise, des femmes savantes. Un sentiment d'injustice vient à l'esprit, les hommes se taillant la part du lion dans ce théâtre. Les actrices de la Comédie française le savent dès leur entrée dans la troupe. Combien ont vécu ces rôles comme une charge, un rite de passage, une punition. Florence refuse de ne pas s'amuser, de ne pas empoigner le rôle à plein rire. J'ai vu Catherine Sauval, Véronique Vella et plus tard Manon Combes, puis Élodie Hubert s'emparer de celui de Nicole dans Le Bourgeois Gentilhomme avec le même élan, la même folie, le même courage, forçant l'admiration et la reconnaissance. Les deux rôles furent écrits pour Mademoiselle Beauval, dont le rire devait enchanter Molière, qui l'a transcrit et couché sur le papier par deux « AA » ou par trois « AAA », sur lesquels tant d'actrices ont buté, se contraignant, s'étouffant, s'asphyxiant, reportant le rire à plus tard, s'excusant auprès du metteur en scène ou du partenaire. Quelle torture! La décontraction de Florence, de Catherine, de Véronique, de Manon et d'Élodie me faisait monter les larmes aux yeux. Une innocence et un prodigieux savoir. Je me souviens du rire de Dominique Valadier dans Le Bourgeois que jouait Roland Bertin en 1983. Un gloussement adorable, irrésistible et généreux qui me révéla la grande actrice. Ces femmes sont-elles des natures ? Aucun metteur en scène ne peut insuffler ce rire. Il peut au contraire l'inhiber. Jean-Pierre Vincent voulait que Zerbinette eût un rire de classe et que l'hilarité fût politique. Toute jeune actrice, Isabelle Candelier, en est restée comme paralysée dans la cour d'honneur devant Mario Gonzalez, dont la verve sous le masque fonctionnait à plein régime. Elle a vécu un calvaire et rien n'est sorti ou presque de sa gorge, elle qui était faite pour le rôle. Je m'en suis souvenu pour le Scapin que je mets en scène avec Adeline Dermy au Français. Je ne demande rien, ne parle pas du rire. On travaille le récit de Zerbinette, j'insiste, rien que le récit, sa structure, son rythme, ses détails. Le rire arrivera ensuite, plus tard par surcroît, selon l'humeur. J'y pense quand même, j'y pense sans arrêt, vieux réflexe. Je lis et vois sur la page les AA et les AAA, sans parvenir à m'en abstraire. Dans « Les conversations sur Don Juan », écrit avec Jean-Loup Rivière, Jacques Lassalle dit « Molière ne parle jamais tant que dans les onomatopées, lorsqu'il y a un « je », un « mais », un « oui »,« oui », un « et », un « a », alors c'est tout le corps qui y passe. Un acteur moliéresque n'incarne vraiment Molière que lorsqu'il a su gérer un « a ». Tout le corps y passe. Adeline, ne me sens pas franc. Eric Ruff, présent dans la salle en tant que décorateur et ami, outre ses fonctions d'administrateur, comprend comment la mettre en confiance et je renonce à m'immiscer dans leur échange. Adeline finit par trouver son chemin, son envol, sa liberté, son rire.
Taking a selfie photo with you, 'cause I don't care what people think about me, about you. I'll build you a big pagoda, I'll sit and drink orange soda with you. You've got a thing that I just love about you. And then we'll fly to Rome and go and see Caesar's home, and I'll sense those pheromones that simply drive me out of my mind. And when you look at me, ain't gonna be hard to see that I...
Bon, au moins, cher Narva, on aura parlé de théâtre,
eh oui.
Non seulement de Molière, mais de comment on joue Molière, des AA, des jeux, du corps fondamentalement, ce qui nous intéresse d'ailleurs évidemment quand nous avons joué ou quand nous jouons encore, et du texte, et de Podalydès finalement, qui parle très très bien de Molière, non seulement de ce qui s'y joue dans Molière, mais de comment le jouer.
Alors on peut dire pour nos auditeurs qu'il y a... C'est très difficile d'aller à la Comédie Française, mais on peut trouver des représentations de la Comédie Française au cinéma, où on peut avoir, l'année dernière notamment, il y avait 5 ou 6 Molière qui sont passés dans des mises en scène absolument époustouflantes. Bon, il faut un peu repérer. Pour la région, il faut aller à Mulhouse.
Mais on peut même dire aux auditeurs que dire Molière et le jouer en famille, c'est encore mieux.
Ah oui.
Et surtout le prendre dans la bouche et dans le corps.
C'est ça. Mais alors les AA et les et les mais et les...
Eh ben, il faut s'y mettre.
Il faut s'y mettre. C'est très compliqué.
Il faut s'y mettre et même pas besoin de mettre des masques ni des costumes.
Allez, ciao. Merci, bisous.
Bonne soirée.
Ouais.